Radio Starbucks.
Morning Edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
La première escale sonore d'un jour dans le monde nous emmène à la frontière avec la Birmanie dans les camps qui jusque-là ont accueilli presque 1 million de Rohingyas. On y passe du temps avec ces réfugiés. Vous les entendez depuis quelques jours sur France Inter grâce à Julie Pietri. Ce soir, nous sommes avec les enfants dans les écoles créées par l'UNICEF. 18h40, vous verrez que l'Arabie Saoudite a envie de renouer avec un islam modéré. C'est le prince qui le dit. 18h45, le feuilleton écolo nous montrons sur une moto qui marche, figurez-vous, aux algues. La revue de presse des correspondants de France Inter et puis 18h55, la chronique du journal Le Monde avec Christophe Ayad ce soir à Mogadiscio. Avant cela, travailleurs détachés, Brexit, populisme, Wolfgang Schäuble, gros agenda européen ce soir et ça tombe bien, nous sommes avec Pierre Moscovici, Le Monde est vaste, accrochez-vous.
Fabienne Saint-Fès, un jour dans le monde.
Bonsoir Pierre Moscovici.
Bonsoir.
Commissaire européen aux affaires économiques, bien sûr, vous êtes en direct de Strasbourg avec nous, puisque le Parlement est assez en session. Je le disais, monsieur Moscovici, gros agenda européen ces derniers jours, aujourd'hui encore. Plein de sujets sur lesquels on est content d'avoir votre avis. Le plus chaud date d'hier soir, et on y vient tout de suite, la fameuse directive sur les travailleurs détachés qui bouge, qui se durcit. Qu'est-ce qu'on dit? On dit merci Macron, c'est grâce à lui ou pas?
Je pense qu'il faut dire merci Juncker, merci Tyson qui est la commissaire en charge, merci aussi à Emmanuel Macron, merci à tout le monde d'être parvenu à un compromis parce que en vérité cette révision de la directive provient d'une initiative de la Commission. Le président de la Commission il y a déjà 2 ans avait estimé qu'on ne pouvait pas rester avec une situation qui créait d'aussi graves distorsions sociales et c'est la Commission qui tout de suite avait fait une proposition qui a un principe de base qui est le principe qui maintenant prédomine et c'est bien, c'est un progrès, c'est une avancée sociale qui est à travail égal, salaire égal. Nous avons défendu ce point de vue, les États membres en ont parler abondamment. Il y a eu un compromis qui s'est dessiné, qui est un bon compromis. Tout le monde n'est pas dedans. Il n'y a pas eu de comportement homogène, par exemple, des pays de l'Est. La diplomatie française a joué son rôle.
Ça, y a pas
le
eu de coupure.
A eu raison.
Il n'y a pas eu de coupure Est-Ouest, et c'est un peu ce qu'on craignait, non? Ou ce que vous craignez, peut-être, Pierre Moscovici, entre les pays?
Il y a eu, c'est vrai, des pays de l'Est qui n'ont pas accepté ce compromis, mais il y a eu aussi d'autres qui l'ont accepté. Et donc, il n'y a pas de rupture Est-Ouest, non, c'est une bonne chose. Il n'y a pas non plus de minorité de blocage. Donc, il y a eu un bon travail qui a été fait, encore une fois, par la Commission d'abord. Je le dis simplement parce que c'est la réalité. Mais je me suis félicité à l'époque que le président Emmanuel Macron soit allé au mois d'août visiter les pays d'Europe centrale et orientale pour 2 raisons. La première, c'est parce que la France, qui est mon pays, n'y est pas suffisamment présente. Et la deuxième, c'est qu'il ne faut pas les considérer comme un bloc. Il faut être capable de parler à chacun parce qu'il y a des intérêts, des positions différentes. Et ça se manifeste maintenant. Après, je pense que ce qu'il faut surtout souligner avant d'être dans les lauriers aux uns et aux autres, c'est que c'est surtout une très bonne chose. C'est que ça va permettre, en effet, maintenant, de traiter ce phénomène travailleur détaché avec un travail égal, un salaire égal, en tenant compte
y compris
aussi
les primes, y compris la pénibilité,
des charges sociales,
y compris l'ancienneté,
absolument,
etc.
Et en partant du principe du pays de destination et non pas du pays d'origine, c'est-à-dire que ce qui est fait jugement, c'est le pays où on travaille.
En même temps, Pierre Moscovici,
avec une réduction des délais.
Ouais, le symbole, on le comprend parfaitement. Mais si on regarde un peu les chiffres, les travailleurs détachés en Europe, ça représente finalement pas grand-chose. 0,4%, je pense, des travailleurs à l'échelle de l'Europe. Un peu plus d'1% en France. C'est si important que ça, le symbole. Est-ce que c'était ça, finalement, le symbole du dumping social de l'Europe? Donc il fallait faire absolument quelque chose dans cette direction-là?
Sur l'aspect quantitatif, vous avez raison. Et ça vaut encore plus si on regarde les durées, parce que par exemple, il y a eu un débat sur 12 mois, 24 mois. En réalité, la durée moyenne,
ouais, c'est 3 mois.
Elle doit être de 3 mois. Donc on est sur le encore moins. Mais l'Europe, elle est aussi faite de symboles. C'est vrai qu'il y avait une fixation, un abcès de fixation politique sur ce sujet-là, qui correspondait aussi à des réalités qui peuvent exister dans tel ou tel secteur. Je pense à la construction et certaines régions, et j'en connais. Et donc, il fallait vraiment résoudre cette question. On n'y a passé beaucoup de temps, on y a consacré beaucoup d'énergie politique, mais c'est une bonne chose. On est si souvent en train de critiquer l'Europe quand il y a des bonnes nouvelles, quand il y a des résultats, quand il y a des bonnes propositions de la Commission européenne qui vont dans le sens de l'harmonisation sociale, quand il y a de bons compromis des États membres qui vont dans le sens de l'avancée sociale, il faut s'en féliciter, sans remettre les choses à je ne sais quelle proportion faible. Non, c'est vraiment un résultat important et positif.
Alors, pardon de vous ramener à quelques mauvaises nouvelles quand même. On va rester du côté de l'Est de l'Europe avec la République tchèque qui vient de porter très haut Andrej Babiš. On l'appelle le Trump tchèque, en tout cas, victoire de son parti aux législatives, voilà, victoire d'un parti populiste. Vous le connaissez bien, tiens, comment vous le trouvez, ce personnage alors ? Est-ce qu'il vous fait peur ? Est-ce qu'il vous inquiète, Andrej Babiš ? Est-ce que vous le mettez dans le même sac que la Hongrie et la Pologne, par exemple ?
Non, c'est un tout petit peu différent. Andrej Babiš est un businessman qui est ministre des Finances de son pays depuis un certain nombre d'années. Je le connais bien, c'est parce que je siège à côté de lui au Conseil ECOFIN, le Conseil des ministres des Finances. Je l'ai fait comme ministre des Finances. Maintenant, je le fais comme commissaire chargé des affaires économiques et financières. Et je ne crois pas qu'il soit équivalent à M. Kaczynski ou à M. Orban quand il s'agit de l'état de droit. Je pense que la République tchèque est un pays qui a une vieille tradition d'état de droit et je ne pense pas qu'elle sera remise en cause. En revanche, c'est vrai qu'il est assez nationaliste sur le plan économique et qu'il n'est pas facile quand il s'agit par exemple de discuter de sujets d'harmonisation fiscale. J'en ai fait l'expérience. Moi, je souhaite vraiment qu'on aille vers une harmonisation fiscale vers le haut. Je souhaite qu'on ait des règles plus dures en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Et quand il s'est agi de ces sujets-là, je l'ai trouvé souvent en face de moi et en face de la Commission. Mais vous avez raison, tout ce que nous rappellent les récentes élections en Autriche, c'était il y a 10 jours, formation d'une coalition aux Pays-Bas, entrée de l'AFD, c'est aujourd'hui,
et on va y venir,
le parti d'extrême droite en Allemagne au Parlement, et maintenant élection en République tchèque, ça prouve que l'Europe est encore fragile, est encore convalescente. Pensez que les populismes d'extrême droite ou de droite extrême sont morts parce que en France, on a eu une élection qui a permis à Emmanuel Macron, jeune pro-européen, d'être président de la République. C'est une erreur. Le populisme a perdu des batailles électorales, notamment dans notre pays. Et c'était la mère de toutes les batailles. Et ça a donné un nouvel élan pro-européen. Mais attention, le populisme n'a pas perdu la guerre. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment obtenir des résultats. Économiques, des résultats sociaux, des résultats sur le front de l'état de droit, des résultats sur la démocratie. Il faut que les pro-européens restent à l'offensive.
Mais justement, on parlait tout à l'heure de la non-séparation Est-Ouest, on va dire, dans le vote autour des travailleurs détachés. Mais là, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a une espèce de bloc Europe centrale qui, lui, est en train de basculer du mauvais côté de la force. Qu'est-ce qu'on a raté, nous, pour que ce bloc central-là, vous parliez d'harmonisation fiscale, vous parliez de tout ces sujets-là, décident que la solidarité européenne, c'est fini, ou en tout cas, c'est pas pour eux.
Il ne faut pas jeter, encore une fois, ces pays dans je ne sais quel opprobre. Moi, j'étais ministre des Affaires européennes il y a longtemps. C'était il y a 20 ans, au moment où on lançait l'élargissement. Et à l'époque, il s'agissait bien de réconcilier les deux parties de l'Europe. Si on les rejette l'une contre l'autre, alors à ce moment-là, on revient dans le système des années 30 et on connaît l'issue. C'est ce que disait François Mitterrand. Le nationalisme, c'est la guerre. Soyons très prudents avec ça. Il y a les pays baltes, il y a la Slovénie, il y a la Slovaquie. Il y a des situations qui sont plus nuancées selon les pays. Et puis vous savez, on ne peut pas dire que c'est Est-Ouest. Prenez l'exemple de l'Autriche. S'il y a un pays qui est vraiment au centre de l'Europe, qui est un des berceaux de la culture européenne, pensez à Zweig, Stinsler...
Non, là c'est plutôt Europe centrale, effectivement.
C'est l'Autriche.
Et l'Autriche, c'est encore un sujet différent.
Une fois que vous commencez à dire on est à l'Est, on est à l'Ouest, maintenant on est au centre, puis un jour on va être à l'Ouest, il y a des mouvements populistes en Italie. Il y a le mouvement 5 étoiles, qui est un mouvement anti-Europe, anti-euro, même s'il est en train d'évoluer. L'AFD fait 13% en Allemagne. Et en France, est-ce que nous avons des leçons à donner quand nous avons au deuxième tour Marine Le Pen avec 34% et au premier tour avec 21,5%? Non, je pense qu'il faut réfléchir différemment. Il faut réfléchir à comment les idées pro-européennes peuvent l'emporter à nouveau sur des idées qui sont anti-européennes. Le vrai clivage, pour moi, il n'est pas Est-Ouest, il n'est pas Nord-Sud, il n'est pas seulement riche-pauvre, il est comment est-ce qu'on peut réussir à avoir de meilleurs résultats pour les politiques européennes. Et pour moi, ça passe en effet par ce grand débat qu'a lancé Emmanuel Macron, qu'a lancé Jean-Claude Juncker, notamment sur comment est-ce qu'on peut faire que la zone euro soit un lieu où on résout les problèmes, où on réduit les inégalités, où on a une politique de croissance commune avec une démocratie commune. Et c'est pourquoi je crois, comme le président de la République française, qu'il faut un budget de la zone euro, qu'il faut un parlement de la zone euro.
Et un ministre de cette zone euro.
Qui soit aussi commissaire européen.
Voilà, qui pourrait s'appeler Pierre Moscovici, allez savoir.
Il se trouve que le commissaire européen s'appelle aujourd'hui
Pierre Moscovici. Oui, ça c'est vrai. Oui. Et un grand ministre.
Je suis ici à Strasbourg. Je suis aujourd'hui à Strasbourg. Et ce que je crois surtout, c'est que.
Le fameux super ministre.
Il ne peut pas y avoir de.
Allez-y,
il ne peut pas y avoir de contrôle démocratique si ce n'est pas le Parlement qui contrôle la Commission. Le Parlement, c'est vrai que c'est compliqué à comprendre institutionnellement, ne peut pas contrôler une instance qui serait purement intergouvernementale. Et c'est la raison pour laquelle ce double chapeau est, du point de vue démocratique, une nécessité. Est-ce que c'est pour demain, pour après-demain, est-ce que c'est pour 2019, 2025 ou 2018? Ça, c'est aux États membres de le décider.
Monsieur Moscovici, comme je voudrais qu'on parle Brexit, pardon de vous faire un peu cavaler, c'est vous qui l'avez évoqué tout à l'heure, l'entrée de l'AFD de l'extrême droite aujourd'hui au Bundestag, c'est l'image qu'on retient peut-être de cet après-midi, de cette journée. Est-ce que ça veut dire, ça veut forcément dire une Angela Merkel affaiblie? Et quand Merkel est affaiblie, le couple franco-allemand prend un coup en même temps ou pas?
Je pense qu'elle reste tout de même une leader extrêmement solide. Elle a fait 33% au premier tour, enfin au seul tour d'ailleurs des élections allemandes, et personne n'a fait 33% au premier tour de l'élection présidentielle. Elle reste une femme d'autorité, d'influence. Elle doit négocier une coalition avec des partenaires un peu plus compliqués, les libéraux et les verts. Mais vous savez, il faut toujours voir le verre à moitié plein, à moitié vide. 13%, c'est beaucoup trop pour l'AFD, mais ça veut dire quand même qu'il y a 87% de pro-européens en Allemagne.
C'est vrai.
Donc ne soyons
mais dans
pas
un pays comme l'Allemagne, monsieur Moscovici,
pour ce grand pays.
Mais dans un pays comme l'Allemagne, ça a quand même un sens qui est terrible et qui est vraiment très important de voir entrer l'extrême droite, objectivement.
Absolument, d'autant que ce n'est pas n'importe quelle extrême droite. Moi, je regarde ça de très près. Il se trouve que mon père a été déporté, ma mère a été protégée par des justes pendant la guerre. Je suis particulièrement sensible à ce point-là. Et quand je vois certains leaders de l'AFD expliquer que la Wehrmacht était une armée très performante ou qu'on en a marre de la repentance envers les Juifs, je m'inquiète. Pour autant, je ne considère pas ce parti comme un parti nazi, mais je pense que ça veut dire qu'il faut être extrêmement, encore une fois, efficace sur les résultats de l'Europe. Il faut être très ambitieux sur l'Europe. Et ce que j'espère de Mme Merkel, c'est que dans sa négociation de coalition, elle ne cédera rien à ce que certains de ses partenaires éventuels voudraient lui imposer comme restriction à des progrès européens. Nous avons besoin de ces progrès européens. Nous avons besoin d'une gouvernance de la zone euro qui soit encore une fois plus démocratique, pas plus technocratique. Nous avons besoin d'une Europe qui soit plus ambitieuse, nous avons besoin d'une Europe qui soit plus solidaire. Et c'est ce que j'espère de ces discussions.
Monsieur Moscovici, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que j'aimerais vraiment aborder avec vous, le Brexit, les négociations qui patinent en ce moment. Theresa May, de son côté d'ailleurs, qui n'est pas en très grande forme, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'on va vers un non-accord? Est-ce qu'on va vers un non-accord, Pierre Moscovici? Est-ce que ça vous paraît possible?
On est à un moment un peu difficile de la discussion parce que nous, les Européens, nous considérons qu'il faut avant tout régler les problèmes qui sont sur la table maintenant, notamment les engagements financiers, notamment le droit des citoyens de l'Union européenne en Grande-Bretagne, et aussi la question irlandaise.
Des frontières irlandaises.
Et puis ensuite, on pourra parler de pas des frontières, mais justement de ne pas rétablir une vraie frontière.
On a bien compris.
La paix en Irlande, parce que c'est de ça dont il est question. Et donc, nous avons fait de ça un préalable. Disons, ensuite, on pourra discuter de la relation future. Et certains au Royaume-Uni ont envie de faire l'inverse, de commencer à parler de la situation future avant que les engagements soient pris, d'où l'impasse dans laquelle nous sommes. Mais je pense qu'il y a aussi des signes d'ouverture.
Comme quoi, par exemple?
Madame May à Florence, le discours de Madame May à Florence, il y a quelques semaines, ouvrait tout de même la perspective par le Royaume-Uni de reconnaître ses obligations financières envers l'Union européenne et même...
Est-ce qu'on aurait perdu
de l'Union européenne?
Allez-y, on a cru qu'on vous avait perdu, Pierre Moscovici, mais on ne vous a pas perdu, allez-y.
Je suis toujours là.
Absolument, si vous je vous entends, allez-y.
donc, il y a eu des ouvertures de Mme May d'un côté, puis de l'autre côté, il y a eu des ouvertures au Conseil européen, où il a été dit que nous allions commencer à réfléchir en interne.
Enfin, commencer à réfléchir, pardonnez-moi, il y a eu cinq réunions, on a l'impression qu'on est toujours au point zéro quand même.
Vous savez, la petite expérience que j'ai de ces affaires européennes, on n'est pas au point zéro, on progresse. On progresse de manière un peu souterraine, de manière un peu confuse parfois, mais on progresse vraiment. On est aussi prêt, Michel Barnier l'a dit, qui est notre négociateur, à considérer la possibilité de période de transition. Évidemment, la possibilité d'un non-accord existe, mais ce n'est pas le scénario sur lequel nous travaillons. Nous pensons qu'il est tellement important pour les deux parties d'avoir un accord et un bon accord que je reste optimiste. Je pense que nous sommes non pas contraints, mais historiquement, nous sommes poussés à réussir ce Brexit, c'est-à-dire à avoir effectivement une sortie du Royaume-Uni, puisqu'ils l'ont décidé, même si on le regrette.
Mais j'allais vous le demander, est-ce qu'à l'inverse...
Avoir aussi, une relation très forte à l'avenir.
Est-ce qu'à
l'inverse... Sur le plan commercial, sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan douanier.
Mais est-ce qu'à l'inverse, il existe aussi un scénario qui dit qu'après tout, il pourrait ne pas y avoir de Brexit du tout ? Est-ce que ça existe ?
Pour que ce scénario existe, il faudrait qu'il y ait un revirement très spectaculaire de l'opinion britannique, mais pas seulement de l'opinion, aussi des partis politiques, pour inverser juridiquement le processus. C'est extrêmement compliqué. Non, c'est pas le plus probable. C'est un scénario, je sais que certains y rêvent, mais
où on parle
beaucoup. Mais je pense que malheureusement, il faut se préparer au Brexit. C'est ça le scénario sur lequel nous travaillons. C'est ça le scénario sur lequel aujourd'hui tout le monde est d'ailleurs. Alors, est-ce qu'ensuite, dans 10 ans, dans 15 ans, il y aura un retour du sentiment européen au Royaume-Uni ? Quelle sera la relation que nous aurons entre-temps ? Tout ça, ce sont des choses encore ouvertes.
Allez, merci beaucoup. Merci de votre présence dans Un jour dans le monde. Pierre Moscovici, en direct avec nous.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé TELSON.
Allez, le téléphone sonne, ce sera pour tout à l'heure, 19h20, mais ça aura bien lieu dans un instant. La suite d'Un jour dans le monde, en attendant, nous emmène dans des camps Rohingyas. Nous sommes aussi sur une moto qui marche aux algues et qui va jusqu'à 145 km/h. Figurez-vous, la rue de presse des correspondants, ce sera à Moscou et en Chine également. Voici Beck, Dear Life. Dear Life sur France Inter. Power Hit Radio. Magique fan.
Terra de la Tulo.
Desservi prise faux.
60 minutes.
Et sous les radars, comme tous les soirs, l'information internationale dénichée par Florence Paracuelos. On commence en Arabie Saoudite, Florence, et vous nous emmenez au cinéma.
Ce qui relève de l'exotisme au royaume des Saouds, où les cinémas ont fermé dans les années 80, interdits par les autorités, parce que synonyme de péché et de dépravation. Mais là aussi, comme pour les femmes au volant, il pourrait y avoir du changement. Pour preuve, cette séance exceptionnelle à Riyad la semaine dernière, 3 courts-métrages projetés au centre culturel du roi Fahd, la salle était pleine, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et les autorités qui laissent entendre que les cinémas pourraient bientôt rouvrir dans un pays qui ne produit pas de films ou si peu. En 2012, le magnifique Vajda de Raïfa Al-Mansour n'était que le 4e long métrage saoudien, le premier réalisé par une femme. Vajda, L'histoire d'une gamine qui rêve d'un vélo comme son voisin. Il y a dans ce film toute la difficulté de s'épanouir dans une société si corsetée, ce qui est un euphémisme pour parler de la charia. Alors ce retour des cinémas, serait-ce la traduction de l'islam modéré et tolérant promis aujourd'hui même par le prince Salman, un islam ouvert sur le monde et toutes les autres religions. Voilà ce qu'a dit tout à l'heure l'héritier des Saouds devant un parterre de délégués et d'investisseurs étrangers à Riyad. Bah oui, parce que depuis la fin du pétrole cher, il faut bien attirer les investisseurs étrangers. Nous n'allons pas passer 30 ans de plus de notre vie à nous accommoder d'idées extrémistes. Nous allons les détruire maintenant, dit le prince. Voilà qui va décoiffer ou faire bouger les keffiers des conservateurs nombreux et puissants dans le royaume.
Vive Florence, l'immense déferlante, la suite contre le harcèlement et les agressions sexuelles. Ça continue aux États-Unis, mais on quitte Hollywood.
Eh ouais, cette déferlante, elle emporte tout. Sur son passage, hier encore, la direction de Fox News a été mise en cause par son ancienne journaliste Megyn Kelly à propos d'une autre de ses anciennes stars, le présentateur vedette ultra-conservateur Bill O'Reilly, licencié en avril pour harcèlement sexuel. 5 femmes, 5 indemnisations amiables. Samedi, le New York Times révélait qu'O'Reilly avait conclu un 6e accord avec une collaboratrice de Fox News pour 32 milliards de dollars.
Millions de dollars, pardon.
32 millions de dollars contre son silence à cette femme en janvier dernier. Et malgré tout, le journaliste nie « Personne ne s'est jamais plaint de mon comportement en 43 ans de carrière ». Cette phrase a ulcéré Megyn Kelly, qui fut sa collègue et qui a fait hier de son émission matinale sur NBC une tribune. O'Reilly dit que personne ne s'est plaint, c'est faux. Je le sais, parce que je me suis plainte, dit Megyn Kelly. Et elle se rappelle de ce jour de novembre 2016 où elle a vu O'Reilly interrogé à la télé sur les agissements du fondateur de Fox News, Roger Ailes, lui aussi débarqué pour harcèlement. Sa réaction ce jour-là est d'une violence et d'un mépris absolu. Ça ne m'intéresse pas. C'est du passé. Ça salit ma chaîne. Je n'en ai rien à faire. À ces mots, Megyn Kelly écrit un mail à la hiérarchie de Fox News qu'elle va révéler publiquement hier, mail dans lequel elle se plaint de ses propos qui sont une gifle pour les femmes victimes. D'autant plus qu'O'Reilly et la direction le sait, a lui-même un passif de harceleur. Megyn Kelly le dit, ça ne lui fait pas plaisir de mettre en cause son ancien employeur, mais la fin justifie les moyens. Ça suffit. Les agressions contre les femmes, la honte, les menaces, les représailles, le silence, ça doit cesser. Un message comme un coup de poing, Fabienne.
Extrêmement fort. Merci beaucoup, Florence Paracuelos, sur France Inter, dans Un jour dans le monde.
France Inter, le 18-20.
Et nous sommes au Bangladesh. Au Bangladesh, à la frontière avec la Birmanie, avec les Rohingyas, la marée humaine des réfugiés Rohingyas en fuite depuis la Birmanie. Presque 1 million aujourd'hui de personnes qui ont dû passer de l'autre côté de la frontière. Toute la semaine, vous avez entendu sur France Inter les reportages de Julie Pietri qui passe beaucoup de temps parmi ces gens. Bonsoir Julie.
Bonjour.
Bonjour. Et ce soir, vous nous emmenez dans le sillage des enfants qui représentent plus de la moitié de ces réfugiés.
Ils errent seuls ou accrochés aux bras de leurs parents dans les camps de réfugiés. Ils sont les premiers menacés par les épidémies, les plus vulnérables face à la soif et à la faim. Et surtout, ils ont vécu, ils ont vu des horreurs. Les massacres de l'armée birmane, la perte de leurs proches, le traumatisme du passage de la frontière.
Et dans ces camps de réfugiés, Julie, des ONG comme l'UNICEF tentent d'offrir un cadre, des jouets aux enfants et aussi une éducation. L'UNICEF a créé plus de 200 centres éducatifs dans les camps. Ils servent de sas de décompression. Voici votre reportage réalisé avec Marco Daras.
Il y a quelque chose de glaçant dans le visage de ces enfants, de certains enfants en tout cas. Des yeux dans le vague, tout le temps, pas de sourire. La peau ne tressaille pas, ne bouge pas. L'horreur, il la raconte d'une voix monocorde. Asma, 10 ans, porte sa petite sœur de 3 ans dans ses bras.
Mes parents y mangeaient à la maison. Moi, j'étais pas là, j'étais au village avec ma sœur. On nous a dit que les militaires étaient là, alors on s'est cachés. Mais quand je suis rentrée, j'ai vu mon papa, ma maman, mes 4 frères et sœurs. Ils étaient morts. Ils avaient un trou dans la tête. J'arrêtais pas de pleurer, ma sœur aussi. Je savais pas quoi faire. Une de mes voisines nous a vu crier sur le bord de la route. Elle nous a pris avec elle. Et elle nous a emmenés au Bangladesh. Mais une fois ici, Elle nous a abandonnés. Elle est partie avec sa famille, ils nous ont laissés. On est restés en pleurant sur un marché dans le camp. Et puis une autre femme nous a recueillis. Elle est là depuis une dizaine de mois avec sa famille. En fait, avant de nous prendre avec elle, elle ne pouvait plus toucher toutes les aides pour l'urgence.
Ici, dans ce centre éducatif en bambou, tenu par plusieurs ONG, les enfants sont rassemblés. Ils sont assis, les plus petits sont parfois nus. Près de 16 000 seraient seuls, sans parents. Les garder quelques heures ici, c'est aussi un moyen de les empêcher de tomber entre de mauvaises mains, exploitation sexuelle ou travail clandestin, dans la capitale, Dhaka ou ailleurs. Christophe Boulierac de l'UNICEF joue avec un petit garçon qui lui tape franchement dans les mains.
T'es un peu coquin, toi.
Aïe. Christophe, vous vous faites taper régulièrement par les enfants?
C'est plutôt bon signe de voir des enfants comme ça qui s'amusent. C'est assez rare, en fait. Et ça, ça fait du bien de voir les enfants rire. Certains ont marché avec la fièvre pendant la pluie, ils ont vu des choses très difficiles. Ils ont quitté en catastrophe leur village. Ils arrivent souvent pas en bon état. Physique et émotionnel et psychologique. La première façon d'aider un enfant qui a vécu des épreuves, c'est tout simple, c'est de leur donner un jouet. Joue. Et en fait, ça va bien au-delà de ça. C'est un endroit où on peut identifier les enfants qui vont moins bien que les autres.
Dans ces centres, les enfants regardent des dessins animés, empoignent et observent de petits jouets en plastique, une dinette, des dés, des petits chevaux. Ils dessinent aussi. Dildar Begund les surveille.
Au début, quand on leur donnait du papier et des crayons, ils ne pouvaient pas. Ils ne savaient pas. Ils n'avaient jamais fait ça en Birmanie. Et puis ils se sont lancés, avec des fleurs, des oiseaux, et puis maintenant, de vraies scènes, leurs souvenirs.
Les dessins les plus doux sont accrochés au mur, ceux qui représentent des corps démembrés, des hélicoptères, des militaires évidemment, ne sont pas laissés en évidence. Quand ces enfants sont là depuis un petit peu plus longtemps, quand ils vont mieux, ils rejoignent les écoles des camps.
Bonjour, comment tu t'appelles?
Mohamed Roubel. J'ai 8 ans.
Et qu'est-ce que tu étudies?
Le birman, l'anglais et les maths. Je suis content.
Nassima Akhtar, bangladaise, et son collègue rohingya, Moubarak, enseignent à ses enfants plusieurs heures chaque jour. Est-ce que ces enfants avaient déjà été à l'école avant, en Birmanie?
Non, on a quelques adolescents ici, très peu étudiés. Après l'âge de 6 ans environ, ils ne vont plus à l'école. En Birmanie, les enfants musulmans ne sont pas admis à l'école, ils n'ont pas le droit d'y aller. Dans nos écoles, ici, ils apprennent l'anglais, le birman, mais pas la langue du Bangladesh, le bengali. Nous n'avons pas reçu le feu vert du gouvernement.
Vous êtes professeur de langue birmane. Qu'est-ce que les enfants chantaient là?
Ils chantent différentes choses. L'hymne birman, par exemple. Les paroles, ça donne « Vous devez défendre votre pays, la Birmanie, la liberté, quitte à donner votre vie ». Une autre chanson rappelle les gestes quotidiens, ce qu'ils doivent faire chaque jour. Le matin, on se lave les dents, le visage, on mange, on va à l'école, on apprend. Toutes les activités de la journée jusqu'à l'heure du coucher.
Leur faire apprendre l'hymne birman, même après ce qu'ils ont vécu, ne pas leur enseigner la langue de leur pays d'accueil, c'est une manière pour les autorités du Bangladesh de dire qu'il faudra un jour rentrer. Persécutés là-bas, rejetés ici, les enfants rohingyas n'ont pas de papier, pas de certificat de naissance. La Birmanie ne les reconnaît plus comme des citoyens depuis 1982. Ici, ils sont simplement enregistrés, progressivement, un par un. En ressortant des bureaux des autorités locales, ils portent fièrement une carte avec leur photo autour du cou. La première fois peut-être qu'ils ont une trace de leur identité.
Un reportage signé Julie Pietri avec Marco Daras. Merci beaucoup à vous deux et votre reportage, Julie, vos reportages d'ailleurs qu'on écoute avec grand plaisir sur France Inter depuis plusieurs jours. Ils sont sur franceinter.fr et en vidéo. c'est celle de Derya Yildirim. La chanson s'appelle Nemkaldi. Elle est turque, si je ne m'abuse.
France Inter.
Climate change is real.
Fabienne Saint-Es.
It is happening right now. Let us not take this planet for granted.
Bonjour tout le monde.
L'actualité en série le mardi, c'est le feuilleton des initiatives écolo partout dans le monde, le pire et le meilleur que l'on trouve sur la planète. Bonsoir Valère Correa.
Bonsoir Fabienne Saint-Es.
Valère, vous nous emmenez aux Pays-Bas et vous nous emmenez à moto, mais pas n'importe quelle moto. D'abord, elle est en bois et ensuite, elle carbure aux algues.
Bah si c'est s'il fallait une preuve que les Pays-Bas vont au-delà des tulipes, du fromage et puis des clichés pour ceux qui le pensent, eh bien là voilà, le plat pays innove pour l'écologie avec ce projet qui en est encore au stade de l'expérimentation, hein, mais qui fonctionne parfaitement. Accrochez-vous bien Fabienne, cette moto a en fait le cadre et les suspensions en bois massif, les amortisseurs sont en liège, les renforts en chanvre, et puis sur le plan esthétique c'est loin d'être désagréable. C'est bien pensé pour, c'est très aéré si D'accord. vous regardez les photos. Et puis pour ce qui est du carburant, eh bien, elle roule à l'huile d'algues et elle atteint les 145 km/h.
C'est
donc
interdit.
Si vous avez, au bord de la plage là, sur, aux Pays-Bas pour les essais, Fabienne, si vous avez l'occasion de l'essayer, mettez un casque mais pas en bois, mettez-en un homologué. Hein.
Alors ce sont deux amis en tout cas Valère, un peu utopistes qui sont à l'origine de ce prototype.
Oui, l'un est ébéniste et designer, il s'appelle Rit Sertzmans et l'autre est scientifique spécialisé dans les carburants alternatifs, c'est Peter Moish. Leur objectif en fait était double, réaliser une prouesse technique et envoyer un message, il y a des solutions pour se déplacer au-delà du pétrole et de l'électrique. Leur credo, on ne savait pas en 1900 comment l'invention voiture allait évoluer. On peut donc tout imaginer pour la moto qui roule avec des huiles d'algues, c'est ce qu'ils expliquent d'ailleurs très bien dans une vidéo publiée sur YouTube.
Les trains marchaient au charbon. Il y avait des voitures électriques, à l'essence ou au diesel, et personne ne savait ce qui allait marcher. Ce n'est pas différent aujourd'hui. Nous ne savons pas à quoi le monde des transports et de l'énergie ressemblera dans 30 ans. Cette incertitude est aussi passionnante, c'est une toute nouvelle aventure. Chacun peut développer et construire ses propres idées. Ce qui est important désormais, c'est de faire grandir cette aventure.
On entend le ronronnement du moteur. Donc
oui,
ça
vous
fait
y
un
connaissez
mobilette.
Un peu, je crois. Ça,
je trouve que ça fait un peu mobilette, si je puis me permettre.
C'est le côté web de YouTube, ça.
Voilà.
C'est pour ça. Bon, les bikers, en tout cas, qui nous écoutent, auront peut-être, eux, apprécié le ronronnement du moteur, si ce n'est vous. Et qu'ils sachent au passage, alors que le prototype n'a qu'une place, qu'elle est un peu décharnée, mais elle a son style. Le mieux est donc d'aller voir les nombreuses photos qui sont disponibles sur la toile.
Donc, Valère, un moteur qui roule aux algues, et ce n'est pas la première fois que ces végétaux marins sont exploités pour innover.
C'est vrai, hein, le plastique biodégradable pour faire des sacs ou des emballages, les montures de lunettes, les cosmétiques aussi, les algues qui produisent plus de la moitié de l'oxygène sur Terre n'ont pas fini de nous surprendre. Et cela fait d'ailleurs plusieurs années que des scientifiques évaluent la possibilité de créer un biocarburant à base d'algues qui puisse être généralisé. Au Chili, par exemple, des chercheurs évoquent la possibilité de faire baisser de 80% les émissions de gaz à effet de serre grâce à ce procédé. Alors si cette initiative hollandaise à base d'algues vous intéresse, eh bien je vous recommande la TED conférence d'un des deux fondateurs. On va vous mettre le lien sur la page de la chronique.
Absolument, sur la page d'Un jour dans le monde, parce que je suis très impatiente moi aussi de voir à quoi ça ressemble cette drôle de moto en bois. Valère Correa dans Un jour dans le monde, merci mille fois.
France Inter, Un jour dans le monde.
Le rendez-vous des correspondants de France Inter qui ont lu la presse chez eux et regardé la télé. Bonsoir Moscou, bonsoir Claude Brouillot.
Bonsoir Fabienne.
Claude, deux gros sujets dans la presse russe ce mardi. On a évidemment parlé sur France Inter dès hier et aujourd'hui encore de l'agression dont a été victime la journaliste de la radio Écho de Moscou. Elle a été poignardée, faut-il le rappeler, dans son bureau, officiellement par un fou. C'est ce que dit la police, Claude. La presse russe, elle, insiste sur le contexte dans lequel a eu lieu cette agression.
Oui, c'est le cas par exemple de Rossiyskaya Gazeta, un journal proche du Kremlin, qui s'attache surtout à la personnalité déséquilibrée de l'agresseur, en précisant que l'intéressé connaissait notre confrère journaliste par contact télépathique. Alors l'approche évidemment est tout autre dans les colonnes et sur les sites de la presse indépendante cette fois, où l'on rappelle qu'il y a deux semaines, Rossiya 24, chaîne qui relaie régulièrement les orientations du pouvoir, avait diffusé un documentaire dans lequel la radio Écho de Moscou était stigmatisé comme un agent de l'étranger, histoire de répondre en quelque sorte aux conditions de travail de Russia Today aux États-Unis, conditions d'ailleurs dénoncées par le Kremlin et Vladimir Poutine en personne.
Mais Claude, le Kremlin fait le lien entre les contextes ?
Non, évidemment, le porte-parole de Vladimir Poutine aujourd'hui a bien sûr regretté cette agression, mais Dmitri Peskov a aussitôt rajouté que cet acte n'avait aucun lien avec le climat hostile aux médias russes qui critiquent le pouvoir. Et Dmitri Peskov de préciser, nous respectons le point de vue de cette journaliste agressée, comme nous respectons celui de ses contradicteurs. Une façon évidemment de faire passer au second plan le fait que cette campagne agressive contre les médias indépendants ici en Russie est alimentée par la presse proche du Kremlin.
Alors l'autre actualité du jour en Russie, Claude, chez vous, c'est la première conférence de presse aujourd'hui de Ksenia Sobchak, j'espère que je la prononce à peu près bien, candidate de l'opposition depuis une semaine dans la course à la présidentielle de 2018.
Oui, et Ksenia Sobchak, qui contrairement à celui qui est encore aujourd'hui l'opposant numéro un à Vladimir Poutine, en l'occurrence Alexei Navalny, a eu, elle, les honneurs de Russia Today tout à l'heure. Ksenia Sobchak a démarré très fort, sans doute pour essayer de se défaire de cette étiquette d'opposante idéale du Kremlin, fille de l'ancien mentor de Vladimir Poutine, autorisée presque adoubée d'ailleurs par le président russe en tant que critique attitrée du pouvoir. Il n'empêche, devant un parterre d'une centaine de journalistes, eh bien, Ksenia Sobchak n'a pas hésité à affirmer que la Russie avait violé les lois internationales en 2014 en annexant la Crimée. Une première déclaration forte, donc, qui posera le débat à un autre niveau, dans un éventuel face-à-face avec Vladimir Poutine, pour peu d'ailleurs, effectivement, que ce débat ait lieu.
Allez, on verra ça, et on verra ça ensemble, et ce sera grâce à vous. Merci beaucoup, Claude Brouillot, en direct de Moscou. Bonjour, bonsoir Pékin, bonjour, bonsoir Dominique André.
Bonsoir Fabienne.
Monosujet, hein, chez vous, Dominique.
Impossible d'y échapper, que ce soit à la télévision, dans la presse écrite, sur les écrans, dans le métro, dans les rues. Pendant une semaine, on a tous vécu le rendez-vous quinquennal du Parti communiste chinois. La presse officielle chinoise a fait à l'occasion de ce congrès un effort très important d'explication du fonctionnement du congrès, ce qui n'est pas toujours évident, et ça en plusieurs langues. L'agence de presse Chine Nouvelle a publié des schémas très clairs sur le système d'élection. Ce soir, toute la presse reprend bien sûr l'information principale de la journée, qui est l'inscription de l'idéologie de Xi Jinping dans la charte du Parti communiste. C'est un événement, car seul Mao Tse-tung, fondateur de la République populaire en 1949, avait jusque-là bénéficié de cette faveur de son vivant.
Alors, on s'en doutait hein, que cet événement aurait lieu. Il y a un autre non-suspense, c'est que Xi Jinping va diriger la Chine pendant encore au moins 5 ans.
Bah, Xi Jinping va certainement être réélu par le bureau politique demain. La presse officielle annonce que l'équipe dirigeante sera dévoilée à midi à Pékin, c'est-à-dire à 6 heures du matin en France. C'est la presse de Hong Kong surtout qui se livre à des pronostics. Le South China Morning Post, qui est le grand quotidien de Hong Kong, affirme que Li Keqiang, le premier ministre actuel, restera en place et que Wang Tishan, l'homme de la lutte anticorruption, partirait à la retraite. On verrait arriver des quinquagénaires nés dans les années 60, des proches de Xi Jinping.
Et alors une question, Dominique, sur les réseaux sociaux, les gens se lâchent un peu ou pas hein?
Très difficile parce que c'est très contrôlé. Les commentaires sont rapidement effacés par la police. Je parle bien sûr des commentaires négatifs à l'égard du pouvoir. C'est bien le souci car ce soir, on a l'impression que tout le monde en Chine est d'accord avec le Parti communiste et Xi Jinping, ce qui donne des messages très nationalistes sur le thème « Nous sommes forts, notre pays est puissant » ou bien « Je suis fier d'appartenir à la nouvelle génération chinoise de cette nouvelle ère ». Il y a même une application qui permet aux Chinois d'applaudir Xi Jinping en tapant sur leur téléphone portable, ce qui donne l'impression d'être dans l'hémicycle au Palais du Peuple avec tous les délégués du Parti communiste. Je vous donne un petit exemple. Xi Jinping est là en train de pointer les inégalités dans la société chinoise dans son discours. Il parle de l'aspiration des Chinois à une vie meilleure et du développement déséquilibré de la Chine. Le Congrès applaudit et hop, vous pouvez participer en tapotant sur votre téléphone aussi, et ça donne ça.
Est-ce que vous avez donc applaudi aussi, je vous fais
on
pas mes compliments.
Quand même que les Pékinois n'ont pas applaudi la pollution de l'air pendant tout le congrès. Même en faisant fermer les aciéries tout près de Pékin, le ciel n'a pas été bleu comme attendu par le Parti communiste. Ce soir, le taux de microparticules toxiques dépasse les 160, ce qui veut dire air mauvais. Tous les restaurants de brochettes d'agneau à Pékin ont dû éteindre leur barbecue.
Ah bah écoutez, ça c'est une vraie révolution. Merci beaucoup Dominique André avec votre application magique donc qui permet d'applaudir pendant le congrès. Tiens, puisqu'on en parlait à l'instant et puisqu'on était à Moscou, j'en profite pour vous le dire parce qu'on va parler la semaine prochaine. Beaucoup des 100 ans de la révolution russe. Grâce à Claude Brouillot, vous verrez qu'il se prépare en ce moment à Moscou une série sur Trotsky et voir ce que les Russes vont en faire et surtout comment ils voient ces personnages. Ce sera intéressant pour nous évidemment. Et on vous le racontera. Le 18-20 continue sur France Inter avec le téléphone sonne et c'est tout de suite.